c'était de savoir si les problèmes étaient pareils en Suisse et en France. Alors, en fait, c'est pas du tout pareil, puisqu'en France, elles n'ont pas le droit de se prostituer librement. Enfin, elles ont soi-disant le droit de se prostituer. Il faut que ça ne se voit pas, que ça ne se sache pas, et il faut qu'elles soient nulle part. Elles peuvent se prostituer, mais elles doivent être invisibles. Et ça, évidemment, c'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'on avait parlé en France. Enfin, ils avaient sauté sur l'occasion pour proposer l'ouverture d'Eros Santerre en disant, puisque ces prostituées vous choquent, puisqu'elles encombrent, elles salissent les rues, puisque les clients n'ont pas la discrétion voulue, et puis que d'autre part, elles provoquent la débauche, alors qu'en fait, elles provoquent rien du tout, puisqu'elles sont là pour répondre à un état de fait. C'est-à-dire que du moment qu'il y a des clients, il y a des prostituées, on ne peut pas les escamoter, pas plus qu'on peut escamoter les clients. Alors, personnellement, en tant que Suissesse, enfin soi-disant Suissesse, moi je me sens tout à fait marginale de la Suisse et de tous les pays. J'étais allée aussi avec une amie qui est là pour soutenir les Françaises dans leur refus des Eros Santerre. Et je crois que ça, c'est pas seulement la France, mais c'est un peu dans tous les pays. Les femmes n'ont pas du tout envie de se voir enfermées. Déjà, nous n'avons pas tellement envie de nous voir méprisées, mais en plus enfermées dans des espèces d'usines à sexe ou qui ressembleraient à des prisons ou à des bagnes. Ça, je crois qu'aucune femme serait enchantée de cet état de choses, à part certaines femmes qui n'ont peut-être pas compris exactement de quoi il s'agissait, parce que personnellement, enfin je ne vais pas parler trop longtemps, mais même ici à Genève, j'ai demandé à des femmes « qu'est-ce que vous pensez des Eros Santerre ?» Et il y en a quand même quelques-unes qui m'ont répondu, en général des femmes un peu plus âgées encore que moi, qui m'ont dit « ah mais nous les Eros Santerre, on irait tout de suite. » Parce que les malheureuses, elles s'imaginent qu'elles vont être bien dedans, parce qu'elles ressentent souvent... comme une telle blessure, le mépris qu'elles lisent dans les yeux des gens quand elles se trouvent sur la rue en train d'attendre le client, qu'elles s'imaginent que dans un Eros Santerre, elles seraient à l'abri de ce mépris. Seulement, elles ne se rendent pas compte du fait qu'elles n'auront plus de liberté, qu'il y aura des règlements, des horaires, des loyers exorbitants, et puis toutes sortes de conventions qui vont leur coûter très cher. C'est-à-dire que je sais par des femmes qui ont travaillé en Eros Santerre en Allemagne, par exemple, par des Françaises qui ont cru bien faire d'aller là-bas en se disant on va échapper à toutes les contraintes et tous les règlements, toutes les contraventions qu'on a quotidiennement en France. On va pouvoir travailler tranquille, faire de l'argent et arrêter plus vite. Eh bien, c'était tout le contraire, parce que vous arrivez dans un Eros Santerre, on vous demande déjà une énorme caution. Ensuite de quoi, vous devez travailler absolument déjà pour payer 100 ou 200 francs de loyer par jour, plus les serviettes, enfin tout ce qu'il faut, les savons, la nourriture, le coiffeur, enfin tout vous est comptabilisé au fur et à mesure, et vous ne pouvez pas vous permettre d'être un jour malade ou absente, parce que le loyer et les frais courent. Et si vous perdez votre chambre, vous ne la retrouvez plus, on vous dira « Madame, c'est occupé, bon. » Eh bien, vous revenez quand ça sera libre, et à ce moment-là même, encore, vous perdez votre caution. Alors, vous voyez que ça représente de telles contraintes que ça devient une exploitation ignoble. Alors, je crois qu'un Eros Santerre, éventuellement, ça sera encore pire que tout.
Les femmes prostituées sont fichées à la police, c'est-à-dire qu'elles doivent donner leur nom, leurs photos, leurs empreintes. Pourquoi ?
Moi, personnellement, lorsque j'ai demandé aux agents de police, aux flics, pourquoi est-ce qu'on était photographié de face de profil, on avait nos empreintes marquées, on m'a dit simplement que lorsque vous étiez assassiné, on pourrait savoir qui vous êtes, c'est tout. Et c'était la seule condition, et c'est la seule, disons, la seule réponse qu'on m'a donnée. On m'a pas dit, c'était pour vous ficher, c'est pour si, c'est pour ça, ben, simplement d'ici un jour vous êtes assassiné, on saura qui vous êtes, c'est
on
tout.
On m'a fait une autre réponse, on m'a dit ceci. Au moment où le client se plaint, par exemple, qu'on lui a volé son portefeuille ou qu'on lui a pris de l'argent ou sa montre ou quoi que ce soit, eh bien, à ce moment-là, on peut retrouver, d'après les empreintes ou d'après la photo, qui sait. Ça veut dire qu'on est déjà délinquante. Ça veut dire qu'une pute, elle a forcément piqué ses michetons.
Alors que, par exemple, une épicière, qui pourrait à la limite aussi faire le porte-monnaie des clients, pourquoi pas ? Eh bien, une épicière, elle n'a pas besoin de donner ses empreintes. Elle n'est pas délinquante d'office. Tandis que nous, oui,
non plus.
On m'a donné la même réponse qu'à toi en me disant, c'est important, en cas de meurtre, on a des pistes. Toujours est-il que toutes les prostituées qui... De le fichage. Moi, à ma connaissance, toutes les prostituées qui se sont fait tuer ces dernières années, on n'a jamais retrouvé les meurtriers. Donc, ce type d'argument, il ne tombe pas, parce que de toute façon, nos meurtriers ne les intéressent pas spécialement. On n'est pas des présidents de la République, ils ne vont pas investir d'argent pour faire une enquête. Donc, de toute façon, ce genre d'argument n'est pas un argument sérieux.
Parce que qui dit prostituée, qui dit fréquente un certain milieu, et pour eux, ça leur fait des pistes. Voilà, c'est une histoire d'assassinat, etc. Voilà.
Puisque je voulais dire, on ne subit pas beaucoup de répression policière, mais de temps en temps, les flics, ils essayent de maintenir plus ou moins nous, certains, de la façon dont on dialogue avec nous, on est, de toute façon, on est des putes, il ne faut pas qu'on soit des illusions, on ne sera jamais des femmes honorables. Et puis, certains flics, quand ils nous causent, ils maintiennent un petit peu ce rapport, ou nous faire croire à nous, inconsciemment, qu'on est d'une certaine façon, ou qu'on le veuille ou non, des marginales, des délinquantes, qu'on n'est que des putes, et puis voilà. Et puis, ils essayent, en tout cas, au départ, quand on n'est pas très connu, de nous utiliser comme petit indicateur. Ça veut dire, est-ce que tu connais un tel ? Est-ce que tu ne crois pas qu'avec une telle ? Est-ce que tu ne crois pas que le nion qu'une telle a pris sur la gueule, c'est son Jules qui lui l'a filé ? Des trucs comme ça. Ça veut dire qu'au début, ils essayent plus ou moins de nous dévaloriser pour que nous, on ait envie de se racheter. Donc, ça veut dire de racheter notre sentiment de culpabilité.
Hein?
Mais, oh, je te demande bien pardon.
Attention.
Consciemment, pas subtil.
Là, on généralise encore une fois. Les flics, les flics savent très bien à qui ils s'adressent pour demander des informations. Ils savent très bien à qui ils s'adressent en disant, écoute, voilà, tu es une pute. Et toi, tu te dis, c'est une pute, maintenant, tu seras sale. Moi non plus, on ne l'a jamais dit. Et en fait, c'est toujours très bien comporté avec moi, toujours été très poli. Les flics m'ont toujours vouzoyé, ils ne m'ont jamais demandé une indication.
Ça dépend de ton passé.
De mon passé et de la personne.
Parce que moi, personnellement, les flics m'ont dit on préfère un Mac qui parle à une fille qui se tait. Ça voulait dire, s'il faut protéger un des deux, on préfère protéger le Mac qui collabore à la fille. Mmh. Et ça, c'est un truc quand même important. Il est vrai qu'à Genève, il n'existe pas de milieu du même style que le milieu lyonnais, par exemple. Donc, il y a moins de liaison entre ce qu'on appellerait le milieu. Je veux dire, quand il y a bien un milieu, mais ce sont des financiers, des escrocs qui font des trucs au niveau international, qui se ramassent des millions et qui n'ont pas besoin de passer par nous et qui, eux, sont en toute l'honorabilité de la société. Mais le milieu à proprement parler, tel qu'on l'entend généralement, il n'existe pas. Donc, forcément, notre collaboration, elle est plus restreinte, il faut aussi le dire.
Les flics vont aussi chez les prostituées comme clients.
Les flics, moi j'en fais des flics comme clients.
Ah,
moi je fais un ecclésiastique et puis je fais un juge informateur de Lausanne. Et puis, je fais un juge informateur de Lausanne, je fais un préfet de Lausanne, et puis attends, qu'est-ce que je fais encore à Genève ? Un magistrat, mais je ne sais plus dans quelle branche. Mais un ecclésiastique, c'est un super masochiste, un répugnant personnage, et puis il a beaucoup d'argent, hein. Ça, c'est moi qui vous le dis, parce que les fantasmes qui se payent. Hein.
Ceci dit, je voulais parler d'une autre discrimination qui touche spécialement les femmes qui travaillent dans des appartements. Bon, à part quelques coins bien précis de la ville qui sont connus pour ça, pour recevoir des prostituées et des clientes, je crois que c'est assez général. Les femmes qui ouvrent, comme moi, par exemple, des salons dits de relax détente, elles ont généralement très rapidement des problèmes avec leur régie. Ou à moins d'avoir un bail d'avance où il est établi qu'elles vont s'adonner à ce commerce, bail pour lequel elles vont devoir payer des prix fous pour des appartements, des petits appartements. En dehors de ça, généralement, on a très vite des histoires. Enfin, on est très vite au tribunal. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été obligées de déménager, de chercher ailleurs, qui sont obligées de continuellement déménager chaque fois.
Pour agir maintenant, c'est d'avoir que les prostituées puissent prendre les appartements qu'elles veulent, où elles veulent, et pouvoir exercer le métier dans l'appartement qu'elles ont choisi, et de ne pas être dans des ghettos. Parce qu'actuellement, à Genève, je pense que partout en Suisse, ce sont des ghettos. Il y a des quartiers spécialisés et des immeubles spécialisée pour la prostitution. Moi, j'ai un studio de travail qui est donc dans un immeuble qui est réservé uniquement pour la prostitution. Il n'y a pas d'autres studios, ou très peu, qui sont loués peut-être pour des artistes de variété. Mais ce sont des immeubles qui sont uniquement réservés pour ça. Je ne pourrais pas faire exercer mon métier dans mon appartement privé. Ce ne serait pas possible. C'est beaucoup trop bourgeois. Honnêtement, je pense pas tu parles pour l'appartement privé là. Donc là, si tu as un appartement privé, que tu mets.
Le studio de travail.
Voilà. Alors, le studio de travail, c'est tout le temps des loyers qui sont surfaits, étant donné que c'est tout le temps des loyers des appartements meublés. Bon, ils sont pas meublés, il y a un lit et deux fauteuils, un point, c'est tout. Mais disons que la personne qui a ce studio le louera 210 francs à la régie et va vous le relouer 700 à 800 francs. C'est tout.
Pendant que vous travaillez, il existe une solidarité entre vous s'il y a un problème, s'il y a une agression, s'il y a un client qui vous menace?
Il y a deux rapports, ça veut dire les rapports professionnels, ça veut dire que si ma voisine elle monte plus souvent que moi, je suis énervée. Mais par contre, si je suis dans mon studio et qu'elle gueule, je vais pas dire « Oh, c'est bien fait pour sa gueule, elle a bien bossé ». Moi, j'ai la clé de son studio. Donc je travaille dans une maison où il n'y a que des prostituées, et puis j'ai la clé de quelques voisines. Et bien si j'entends ma voisine gueuler ou qu'elle m'appelle, je ne vais pas dire c'est bien fait pour elle, elle a plus travaillé que moi. Elle m'appelle, je vais vers elle. Et puis si c'est un client un petit peu trop important, moi je cherche encore d'autres copines. Et puis moi, si je sens qu'un client ça tourne un petit peu mal, j'attends pas de prendre une baffe. J'ouvre ma porte, puis j'appelle les copines, puis il y a tout de suite 4 ou 5 copines dans mon studio. Donc à partir du moment où on est dans le besoin, elles ne réfléchissent pas. Elles ne disent pas « Oh, machine ci, machine ça » ou je sais pas quoi. À partir du moment où j'appelle, où je demande de l'aide, elles viennent tout de suite.
Tu sais que si tu quittes tout à coup, tu dis « Bon, demain, je vais pas travailler, j'en ai marre. » Bon, au bout de 2 jours que tu n'y vas pas, on va te foutre à la porte et puis tu n'es pas sûr de retrouver du travail la semaine d'après. Nous, si on en a marre d'aller travailler, on dit « Bon, j'y vais pas. J'ai de quoi vivre pendant 8 jours, eh ben, j'irai pas pendant 8 jours. Et même si je veux rester un 9e jour encore sans bouffer, ben... De toute façon, tu n'as personne qui te fout à la porte et tu sais que quand tu ressors, tu retrouves tout de suite du boulot et de l'argent. Voilà. C'est ça qui fait notre liberté, là aussi.
Nous, on ne s'investit pas. On ne s'investit pas physiquement.
On ne s'investit pas moralement dans la tête. Tu vois.
Donc, dans l'acte sexuel avec le client. Comme a dit si bien une fois notre copine.
Physiquement, il touche ton corps.
Ouais, voilà. Comme a dit si bien notre copine à l'occasion d'un débat à la télévision. Un gynécologue, il aime les femmes. Il soigne des tas de sexes de femmes. Il voit les tas de sexes, il ne va pas commencer à bonder, à écumer, à avoir envie de sauter la femme qui est sur la table, les jambes en l'air. Et puis, ça ne l'empêche pas de quand le soir, il rentre à la maison, il voit sa femme qu'il aime, qui a son sexe. Et bien, quand il voit le sexe de sa femme, ben, il a envie de cette femme-là. Ben, nous, c'est pareil. Nous, avec nos clients, on ne s'investit pas physiquement, ni affectivement, ni amoureusement. On se désincarne.
Enfin, moi, je peux comparer parce que j'étais très longtemps donc dans la vie normale, ce qu'on peut appeler normale. Donc, j'étais ouvrière, j'étais spécialisée, j'étais même chef technique dans une grande maison à Genève. Et je m'investissais beaucoup plus en ayant ce travail qu'en étant prostituée maintenant. À l'époque, donc, j'avais cette responsabilité de poste et j'étais vraiment jour et nuit accrochée soit au Talex, soit à mes maquettes, à des choses comme ça. Et même mes week-ends, je pensais encore à mon travail. Tandis que maintenant, je fais mon client, c'est fini, j'ai reçu mon argent et je m'en vais, et puis voilà.
C'est ce qui ennuie, je crois, la plupart des gens, c'est parce qu'on est indépendante et qu'on gagne du fric. Je crois que c'est encore
plus facilement, ça.
On est libre.
On est libre.
Et
on peut
ça les ennuie horriblement à l'heure actuelle dans notre société qui est fric, hein, fric, fric.
Alors, les grands hommes d'un côté, ils ont besoin de nous. Alors, ils viennent, ils rasent les murs. Oh, si je t'avais pas, qu'est-ce que je ferais? Mais si tu savais le bien que tu me fais. Et puis après, on rentre dans un bar, ils sont là. Qui c'est cette belle femme? Oh, mais c'est une pute, tu l'as jamais vue au coin de la rue de Berne?
Donc, il y a un livre qui vient de sortir qui contient 13 témoignages de prostituées. Ce qui fait la force de ce livre, c'est justement que dans ces 13 témoignages, il y a des contradictions énormes. Et d'autre part, il y a toujours un terrain d'entente. Même quand 2, 3, 4, 5 femmes, on arrive à dire chacune le contraire les unes des autres, il y a quand même toujours un point de rencontre. Il vient tout à coup, on ne sait pas pourquoi, enfin, c'est presque fatal. Il vient un moment où elles disent quand même la même chose, tout en se contredisant. Alors, à mon avis, c'est ça qui fait la force de ce livre, c'est la vérité toutes les vérités qu'il contient qui arrivent à se rejoindre tout en étant différentes.
Il s'agit du livre « Sex Bise » de Roger Gaillard, paru aux éditions Gronauer. Des femmes prostituées de Genève ont fondé dans le quartier des Paquis la permanence des prostituées autonomes. Cela pour s'entraider mutuellement, vu qu'à Genève, il n'existe pas un service de ce genre. C'est le but mensuel de l'Association de défense des femmes prostituées. Il est publié en France, mais il y a toujours des nouvelles de Suisse. Vous le trouvez au kiosque du boulevard. Autre nouvelle. Le samedi 4 juillet à Lausanne, à 15h, aura lieu à la place de la gare Homo Manif, la manifestation nationale des PD et des lesbiennes de Suisse. Venez toutes, 15h, place de la gare. Et le soir, il y aura fête à la Maison du Peuple. En juillet, va sortir le numéro 0 du journal des lesbiennes appelé Clit 007, concentré lesbienne, irrésistiblement toxique. Si vous vous abonnez, ce journal deviendra un trimestriel.
Gene Bottle, c'était Police. Et puis là, tout de suite, on va changer de longueur d'onde, on va se désofficialiser, on va s'empirater, histoire d'écouter un petit peu ce qui se passe ailleurs.
Ce sera tout à fait... Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Mercredi 24 juin, 19h30. Certains ont pu entendre quelques bribes d'une radio pirate. Il suffisait pour cela de se balader entre 101 et 104 MHz en modulation de fréquence. Mise sur pied par des féministes, Radio Pleine Lune, c'est son nom, a été, comme vous le constaterez, rapidement brouillé. Ce mercredi 24 juin, les animatrices pirates diffusaient un débat de 52 minutes réalisé avec des prostituées. Pour l'autre radio, l'officielle, la romande, je suis allée écouter cette émission avec deux des prostituées qui y ont participé.
Ce sera tout à fait...
Elles ont droit au plaisir, elles veulent du plaisir. Et puis si leurs maris s'y prennent mal, ben, elles veulent plus. Je pense, j'imagine, je ne sais pas. Alors moi, je pense que les crises sont dépassées par les événements. Parce qu'il y a certains qui me disent que leur femme doit faire l'amour, enfin bref. Et puis la façon dont ils s'y prennent aussi bestialement, moi je les comprends, les pauvres femmes.
Qu'est-ce que débloqueront jamais. Parce qu'on les a éduqués dans l'optique unique de se marier avec un homme qui assume les frais du ménage, de faire des enfants, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper peut-être du jardin, du ménage, de la vaisselle, de la lessive, mais on ne leur a jamais dit de s'occuper de leur corps et du corps de leur mari. Ça, c'est une chose qu'on ne leur a
jamais apprise, on n'en a même pas parlé.
Je dois faire semblant pour les mettre à l'aise, pour augmenter leur jouissance, peut-être pour les déculpabiliser quand même de temps en temps. Parce qu'il faut voir que dans les groupes, il y a des blocs.
Qu'est-ce que ça vous fait que l'émission soit brouillée comme ça?
Bien, moi, je pense que ceux qui détiennent tous les pouvoirs n'ont pas du tout envie que la vérité soit dite.
Ben, je pense effectivement la même chose. On veut bien une radio officielle, bien contrôlée,
ou tout. Par l'État, par le système patriarcal, que rien dérange les bonnes habitudes.
Mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, eh bien, dès qu'il y a quelque chose qui sort des chemins généraux, alors à ce moment-là, c'est interdit, on fait tout pour le brouiller, pour l'interdire.
Alors, puisqu'il est à peu près impossible, et même tout à fait impossible d'entendre votre émission, est-ce que vous pouvez un tout petit peu me dire le contenu de cette émission, justement, parce que vous êtes deux des prostituées qui avaient participé à Radio Pleine Lune, spéciale prostitution.
Bien, on tenait beaucoup à parler de notre travail. On donne des indications sur notre travail, sur les relations entre nous et nos clients, sur ce que nous pensons de nos clients, de leur besoin de venir nous voir, de ce que ça signifie dans un rapport entre hommes et femmes, et plus spécifiquement dans nos rapports entre prostituées et clients.
Qu'est-ce qu'en fait Radio Pleine Lune ?
C'est une émission de femmes qui s'arroge le droit de publier, enfin d'essayer de publier, bien sûr, une émission chouette qui ne soit pas forcément régie par ceux qui, au général, tirent toutes les ficelles, détiennent tous les pouvoirs. En ce qui me concerne, j'estime que les ondes devraient être libres.
Et qui sont ces femmes qui ont créé Radio Pleine Lune et à quelle cadence diffusent-elles ?
Une fois par mois, approximativement autour du 28, en général, à peu près où se trouve la Pleine Lune. Et ce sont des femmes sympas, féministes, on ne peut pas dire qui, mais qui sont sensibilisées par les problèmes de femmes.
Et alors, comment ça s'est passé? Elles vous ont contacté, vous les avez contactées?
Disons, elles nous ont contactées à la suite de la publication d'un livre qui vient de sortir sur, concernant les problèmes de la prostitution, en nous demandant si on était d'accord de parler de notre travail dans le but de faire une émission. Et effectivement, en tout cas en ce qui me concerne, je pense pouvoir parler au nom d'autres femmes qui ont participé à cette émission. On était d'accord dans la mesure où on savait qu'on pouvait rentrer en relation avec des femmes qui se posent des questions sur les relations entre hommes et femmes et qu'il nous apparaissait très important de montrer que même dans le domaine de la prostitution et quelles que soient les couches sociales dans lesquelles se trouvent des femmes, il y a toujours des femmes qui se posent ces problèmes-là.
Bon, l'émission est enregistrée, hein, on ne va pas le cacher. Comment ça s'est passé?
Nous sommes allés bouffer chez des amis sympas et ensuite, on a discuté pendant à peu près 2 heures de temps et puis elles ont retenu les éléments les plus chouettes, les plus sympas.
Les plus importants.
Voilà. Par exemple, que nos clients se plaignent toujours la fragilité de leurs femmes et que la majeure partie du temps, ils en sont responsables. Et puis le fait qu'en venant chez nous, ils se déculpabilisent en payant. Parce qu'il nous obligera d'une façon ou d'une autre à remplir le contrat qu'on a fixé au départ. Donc, avec nous, il n'a pas de timidité comme il l'aurait avec une autre femme.
Disons que, bon, on était à peu près, enfin, on était 5 prostituées à parler. Et avec des avis différents, et c'était ça qui était important, on n'avait pas toutes les mêmes opinions, y compris sur les problèmes entre les clients et nous, et surtout sur une certaine, entre guillemets, éthique du travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait envie de vendre, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de vendre. Chacune donnait son opinion, et c'est dans ce sens-là, à mon avis, que c'était très important, c'est que ça montrait qu'il y a dans ce milieu-là des tas d'opinions différentes, alors que les gens, généralement, ont des préjugés et nous mettent toutes dans le même panier.
On a discuté, par exemple, entre autres, du fichage, des empreintes digitales, des photos qu'on fait de nous, de face de profil de 3/4, qui sont pour la plupart des femmes très humiliantes. Et puis c'est une épreuve astreignante pour beaucoup de femmes qui sortent de l'hôtel de police complètement déprimées.
Alors j'estime qu'il n'y a aucune raison qu'on nous fiche comme des criminels. Et puis on nous a donné des réponses très différentes aux unes des autres. À certaines, c'est pour qu'on nous identifie en cas de meurtre. Et puis à d'autres, que c'était pour si jamais on piquait un client. Enfin, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on est prostituée, on est tout de suite délinquante. Ça veut dire, à partir du moment où on est prostituée, on est forcément susceptible de piquer dans le porte-monnaie de nos clients. Et comme tu l'as dit, une épicière, elle ne sera pas cartée comme nous, alors qu'elle peut très bien nous piquer dans le porte-monnaie de son client.
Différents thèmes étaient traités, donc celui que tu as dit, c'est-à-dire la question du fichage, la question du certificat de bonne vie et mœurs qui nous est refusé quand on arrête, la question de nos relations avec les clients, de ce qu'on pense de nos clients, de ce qu'ils nous racontent de leur vie.
On essaye d'écouter pour voir si on peut vous entendre une fois encore.
En tout cas, il faut admettre que les PTT sont efficaces dans ce genre de cas.
Est-ce que vous avez une idée de la manière dont les féministes qui ont lancé Radio Pleine Lune ont pu émettre, ou ont tenté plutôt d'émettre?
Moi, je pense qu'ils ont dû se mettre sur un tas de maisons, ou dans un champ, ou quelque part, je ne sais pas. Puis je ne veux pas le savoir.
Oui, je crois qu'elles sont assez secrètes et discrètes, et finalement...
On comprend pourquoi.
Oui, on comprend pourquoi, je dirais, prendre des risques et... Elles prennent des risques aussi pour diffuser nos opinions, donc finalement, on tient pas, en nous-mêmes, on ne tient pas spécialement à savoir, de telle façon à ne pas leur faire prendre plus de risques.
Moi, personnellement, je demande des agents de police au flic, pourquoi je suis en train de faire ça, et dans le même temps, je suis en train de
Est-ce que cette émission était très importante pour vous?
Elle était très importante parce qu'elle a été faite par des femmes. Des femmes neutres ou subjectives légèrement parce que féministes. Quand les hommes nous interviewent, ce sont de toute façon des voyeurs professionnels parce que dans leur vie, ils ont toujours été une fois ou l'autre des clients. Alors, ils font une projection assez dingue. Et puis, ils relèvent, ils retiennent des bribes de conversations qui sont les plus bandantes. Ce qui leur plaise à eux, ce qui est susceptible d'émouvoir le plus de gens, ça veut dire alors de nous mettre dans une position de victime. Alors on est toujours des victimes, on est des pauvres petites bêtes.
Est-ce que vous pensez qu'une pareille émission aurait pu passer sur une radio officielle?
Peut-être qu'elle aurait pu passer, mais pas en Suisse. Je sais qu'en Suisse, le contrôle sur la radio, sur la télévision est extrêmement fort.
Mm-hmm. Peut-être que ces gens des PTT sont des clients à l'occasion. De toute façon, tous les hommes sont clients dans leur vie. Celui qui n'a jamais pêché se lève puis jette la pierre. Alors ils n'ont pas du tout envie que la vérité soit dite. Je pense que c'est ça.
Je ne sais pas si c'est seulement ça parce que... Bon, ils n'ont pas envie. Ils n'ont effectivement pas envie qu'on touche aux mœurs, spécialement en Suisse et spécialement dans la ville à Calvin.
Ils n'ont pas envie que leurs femmes réagissent, se réveillent et puis réalisent certains trucs. Parce que je pense qu'on a beau être au stade où le peuple a voté l'égalité des sexes... Je sais pas, moi je me demande vraiment à qui ça profite.
C'est-à-dire que là où personnellement je suis le plus déçu, c'est qu'on parle de liberté d'expression. On critique les pays de l'Est en disant là-bas les gens ne peuvent pas s'exprimer, mais finalement, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'expression quand on prépare quelque chose, un produit qui est bien fait, bien fini, et qu'on veut le diffuser par des voies non officielles, on se fait réprimer, et ça je trouve personnellement que c'est une atteinte à la liberté d'expression.
Je vous dis, vous êtes indispensable. Moi, si je t'avais pas, je sais pas ce que je ferais. Tu te rends compte, si je t'avais pas, ils nous disent plutôt quatre fois merci qu'une. Et puis plus tard, on les croise dans un restaurant. Et puis quelqu'un dit, mais qui c'est cette belle femme? Et puis le même client, il répond, ah, mais c'est une pute, tu l'as jamais vue au coin de la rue de Berne.
Ce ne sera rien. Rien que des mots. Des mots. Des mots. Comme à la radio.
J'imagine la révolte brève. lâché par quelques douces femmes. 2000 ans de prison dévorés par les flammes. J'imagine l'amour faisant l'amour, la vie faisant le reste. Une révolution sans un mot, sans un geste. Et la grande liberté au point la rose. Et la grande liberté, la rose au coin. Et la grande liberté, la rose au coin. J'imagine un peuple dynamite et pourtant sans défense. Tout en lui ne serait qu'amour et transparence. J'imagine un hiver tout de neige et fleurissant quand même. Pour des femmes chansons, pour des hommes poèmes. Et la grande liberté au coin la